des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission spéciale car nous passons cette heure en compagnie de Pascal Quignard, l'un des auteurs les plus radicaux, les plus intrigants de la littérature française et les plus puissants, sans nul doute. Bonjour Pascal Quignard.
Bonjour.
Prix Goncourt en 2002 avec Les Ombres Errantes, adapté au cinéma avec Tous les Matins du Monde par Alain Corneau, par Benoît Jacquot avec Villa Amalia. Vous semblez être l'écrivain contemporain qui a l'éthos, j'utilise à dessein devant le fou d'antiquité que vous êtes un terme d'Aristote, le plus singulier. En effet, on a l'impression que votre œuvre littéraire suit un rythme qui lui est totalement propre, se coulant toujours dans vos obsessions plutôt que dans celles de notre siècle. On peut se remémorer une phrase de Martin Marais, le héros de Tous les Matins du Monde, lorsqu'il parle de son art. « Quand je tire mon archet, c'est un petit morceau de mon cœur vivant que je déchire. Ce que je fais, ce n'est que la discipline d'une vie où aucun jour n'est férié. J'accomplis mon destin. » Est-ce que vous seriez d'accord, Pascal Quignard, avec votre personnage, l'activité de l'écrivain Quignard, au fond, indexée sur une discipline, un destin, et de l'organique aussi, avec ce morceau de cœur vivant dont il parle ?
Ah oui, ça me plaît bien parce que ça ferait de moi un musicien dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'un musicien est forcé, pour sa voix ou pour son instrument, de s'exercer tous les jours et de ne pas avoir en effet le moindre jour férié. Et moi, oui. Sinon que je ne me sentirais pas, je serais plus musicien qu'écrivain parce que c'est pas écrivain, c'est pas l'identité écrivain qui m'intéresse. C'est une façon de vivre, de sentir un peu plus profondément en écrivant et en lisant sans cesse.
Et le petit cœur vivant qu'on déchire, le petit morceau de cœur.
Ah, c'est vrai que
vous qui écrivez si organiquement. Oui.
Si vous touchez à ce que je fais, je suis blessé au cœur, il n'y a pas de doute.
Alors, tel l'archet de ce jeune musicien, on en a fait l'impression que votre plume offre à chaque nouveau livre un morceau de son cœur, voilà, vous le disiez, sinon vous êtes blessé, et de sa pensée en accomplissant ce destin que vous semblez contempler, Pascal Quignard, en retrait, souvent vous dites dans l'angle mort du social et du temps. Est-ce qu'il y a un asset, mieux un stylite en vous ?
Stylite, non, parce que j'aurais trop le vertige, je tomberais demain. Mais c'est pas si c'est de la l'ascèse, c'est, je crois, un luxe inouï. Je me suis retiré, en effet, je peux vivre de ce que j'écris. Depuis 20 ans, je n'obéis à personne, je n'appartiens même pas à un jury, personne ne peut me demander quoi que ce
même
soit.
Pas.
C'est le luxe même, si vous voulez. Je ne me sens pas comme un héros gymnosophiste, mais je me sens plutôt comme un homme très libre.
Mais cet angle mort du social et du temps, qu'est-ce qu'il dit ? Parce qu'on a l'impression que c'est presque être mort au vivant que vous décrivez avec cette expression.
Écoutez, on peut pendant, mettons, 50 ans de sa vie, être plus dans l'actualité et dans les jeux de pouvoir et dans les ambitions, c'est tout à fait honorable, mais c'est aussi très désespérant, et l'on peut aussi profiter de ce qu'il y a peut-être de plus beau dans l'expérience, dans l'amour et dans l'art, qui est une forme d'abandon.
Paul Valéry disait dans ses cahiers, c'est une niaiserie que de chercher l'homme dans l'œuvre. Est-ce que chez vous, au contraire, l'homme et l'œuvre ne chantent pas d'une seule et même voix, sans dissonance, allais-je dire ? Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé d'éthos, je m'adressais au fou d'antiquité. Maintenant j'utilise un terme musical pour le fou de musique. Est-ce qu'au fond, écrire chez vous, Pascal Quignard, ne porte pas ce rêve-là, celui d'unifier, voilà, une vie, un style ? Une personnalité, oui. Un ressenti, un temps propre.
Oui. Ça ne veut pas dire que ce que disait Paul Valéry est faux. On ne peut pas rechercher une identité personnelle dans une œuvre. L'œuvre commande. Mais moi, je veux qu'une œuvre puisse m'impliquer totalement. Donc l'implication, oui, ce n'est pas le fait je n'ai rien dans ma vie qui mérite, d'être avoué ou d'être manifesté. Mais j'ai besoin que tout ce que je fais soit impliqué dans ce que j'écris.
Et ça se traduit comment, alors, cette implication ?
Quand je me relis, tout ce qui me paraît jeu de rôle ou ornement inutile tombe.
Vous parlez souvent de votre art d'écrire comme une découpe, une coupe. plus que d'un texte. C'est vrai qu'étymologiquement, texte veut dire ce qui est tissé. Vous êtes plus dans la découpe.
Oui, c'est vrai. Texte, oui, c'est texéré, c'est même comme la façon dont l'araignée fait sa toile. C'est-à-dire, elle laisse pendre un fil, et puis ça s'accroche, puis ensuite elle fait un autre. Et moi, j'avoue que je laisse pendre ma toile. J'ai toujours beaucoup, beaucoup plus de texte. Mais que le plaisir ensuite, c'est couper. Un plaisir sadique infini, c'est couper tout ce qui est mauvais, retirer tout ce qui est sentimental et laisser une espèce d'apic. Vous voyez, quelque chose d'un peu coupé, en effet.
D'apic, c'est-à-dire c'est en termes géologiques que vous voyez animal avec l'araignée et ensuite
si
c'est
vous
la...
voulez, je peux prendre aussi. Je suis quand même quelqu'un qui a été extrêmement influencé par le cinéma. Si vous préférez le mot cut,
oui.
Cut up.
C'est
ou...
ça.
C'est un plaisir fou. Maintenant, je trouve que, avec comment dire, les arts que nous avons expérimentés, les liaisons sont devenues complètement inutiles, sont même fastidieuses. Expliquer ce qui s'est passé dans le chapitre précédent ou avant, et que on peut faire confiance à l'intelligence de ceux qui lisent et faire cut sans arrêt, et les gens bondissent comme il faut.
Grâce au cinéma, au fond, la littérature et le roman, on va en parler hein, avec ces larmes hein, que, oui. qui signent votre retour au roman, hein, oui. voit-on écrit. Mais grâce au cinéma, justement, à ce cut-up, à ce cut, finalement, on ferait évoluer la structure. On n'aurait plus besoin, justement, de la marquise sortie à 5 heures. C'est terminé, tout ça.
Ah, je pense que oui. Je pense que c'est le cinéma qui a permis cela, même au théâtre, même dans la danse, ou la liaison. La liaison est devenue insupportable. Si vous prenez les textes, par exemple, de la Renaissance, ces longues périodes où on dit 10 fois la même chose comme une sorte de danse,
de
motif qui danse, etc. C'est devenu, ou ça m'est personnel, mais je pense qu'il n'y a pas que moi qui suis ainsi fait, c'est devenu un peu insupportable.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec certaines thèses qui, par exemple, pour parler des grandes séries américaines télévisées d'aujourd'hui, parlent du nouveau roman feuilleton du 19e et qu'au fond, le roman ne s'est jamais aussi bien porté, sauf qu'il n'est plus dans la littérature, il est dans cette télévision-là.
Ah, mais j'aime bien aussi ces séries américaines, donc je ne vais pas.
Parce qu'il y a de la liaison.
C'est du roman. Le bureau des légendes, c'est forcément aussi des jeux de rôle qui se multiplient, qui se démultiplient. Ah, mais il y a quand même beaucoup d'inconnus, beaucoup de cuts quand même. Il y a. Je ne pense pas qu'on puisse faire dire que ces films qui se succèdent soient du roman. C'est du rêve.
Alors, vous avez toujours mené de front, vous, le disciple de Lévinas, deux entreprises parallèles mais distinctes. D'un côté, ce que vous appelez roman. De l'autre, des textes plus hybrides, si tant est que le genre roman ne soit pas un genre hybride. Je pense aux petits traités hein, qui ont été réunis en 1990 par les éditions MAG, ou à partir de 2002, avec Le Dernier Royaume, vous publiez, Pascal Quignard, chez Grasset, donc un nouveau roman, c'est comme ça que c'est écrit, hein, sous le titre, intitulé « Les larmes », dans lequel vous vous attelez à surprendre, dans l'histoire de France, les premiers balbutiements ou les premières brumes, hein, c'est l'expression, c'est le mot que vous utilisez, les premières brumes du français, ainsi que la première âme française qui se révélera être un oiseau. Et cette quête de l'étymologie de notre langue se fait à travers le récit du destin de deux petits-fils de Charlemagne, Nithard et son frère jumeau Arnid, deux mots qui sont palindromiques finalement et réciproquement. C'est un retour, Pascal Quignard, à une forme que vous aviez délaissée, ce roman, où au fond on se fiche du nom qui lui est donné à ce livre, qualifié précisément de roman.
Non, il faut avouer que c'est un roman dans la mesure où l'essentiel des récits sont tous inventés. Et c'est du faux à l'état pur. Dans ce cas-là, la meilleure définition du roman, c'est quand même le faux à l'état pur. Mais ça, parmi les romans que j'écris, il y a des romans que j'écris qui sont complètement, comment dire, imaginaires. Il appartient à ces trois romans que j'ai écrits il y a plus de 20 ans. C'était Tous les matins du monde, où je prenais un petit détail qui était la naissance de la viole à 7 cordes inventées par Sainte-Colombe, et le reste est complètement inventé. Ensuite, il y a plus de 10 ans, c'était Terrasse à Rome, où c'était l'invention de la manière noire, et tout le reste était aussi inventé. Et là, c'est l'invention de la langue française. Juste Nithard est exact. les dates sont exactes et tout le reste est inventé. Le moine qui les élève, la chamane qui dans sa forêt.
Sar, la chamane
qui dans sa, ouais, dans sa falaise.
Sar, qui est un très vieux mot, hein, qui veut dire les mages, hein, en mésopotamien, ouais, c'est ça.
Tous mes trucs sont levés, vous savez.
Je pensais au Sar Peladan.
Bien sûr.
Se faisait donc cet écrivain fin 19e qui se faisait appeler mage avec ses bottes de.
On touche toujours la tombe au Père Lachaise.
Exactement. Voilà. Donc en fait, le roman, c'est le faux. C'est le mensonge qui définit, selon vous, le roman.
Oui. Je pense que même, si vous voulez, que ceux qui prétendent dire la vérité se cachent beaucoup, et que si vous demandez à quelqu'un, dites-moi quelque chose de complètement faux, vous trahissez plus de vous-même, quelque chose de plus authentique, que si vous prétendez définir ce que vous êtes.
Donc en fait, le roman serait une anti-vérité, ou une vérité plus forte que la vérité, car inventée. C'est ce que
oui, ça serait un piège à vérité plus profonde, ou en tout cas, de même que dans la psychanalyse, le fait de dire à peu près n'importe quoi permet de faire surgir quelque chose qui n'était pas prévu. Dire faux permet de faire surgir des scènes qui me font pleurer.
Vous avez vous-même écrit dans l'avertissement au lecteur du Dernier Royaume cette phrase « En moi, peu à peu, tous les genres sont tombés ». Est-ce que ce n'est pas une façon de dire qu'on se fiche en littérature de la théorie des genres, ou qu'avec la désintégration de la structure romanesque, hein, ce dont on parlait à l'instant, le fait que on doive, selon vous, abolir les liaisons, l'inclassable, la digression, le décousu, vous auriez finalement peut-être aussi le sentiment d'avoir inventé, vous, un genre littéraire?
Ah non, c'est pas être inventeur d'un genre littéraire que dont je me vanterais. Non, c'est le fait, je crois plutôt que, et là je parlais à l'instant de psychanalyse, je pense que le fait de, on ment toujours. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de genre possible. Il n'y a plus de posture de vérité. C'est ça plutôt que je ressens. Et c'est en quoi je crois qu'il faut concéder que tout ce qu'on fait est beaucoup plus proche d'une toile d'araignée imaginaire, c'est là où il y a du texte, plutôt que d'une sincérité éventuelle ou d'une foi possible. Je crois qu'il faut laisser le mot roman à la fiction.
Vous avez une très belle définition, j'appelle roman la narration qui n'argumente pas. Voilà. Ça voudrait dire donc beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de poésie peut-être.
Ça veut dire que des images, que des images. Oui. De même, le rêve, quand nous rêvons la nuit, n'argumente pas. Il impose des images qui nous choquent quand elles sont désirables ou qui nous effraient quand nous ne savons pas les aimer.
On va commencer par ces larmes, Pascal Quignard, que vous publiez donc aujourd'hui. On retrouve, comme dans bon nombre de vos textes, Pascal Quignard, cette fragmentation de la narration, cet éclatement du genre romanesque dans lequel d'autres genres éclosent, hein, pensée, conte, légende. J'aimerais qu'on vous écoute lire un extrait des larmes, mais juste avant, on va écouter votre premier choix musical. Vous avez choisi John Blow, Vénus et Adonis, et le chœur des chasseurs, sous la direction de René Jacobs. Cœur des chasseurs, Vénus et Adonis, sous la direction de René Jacobs et John Blow. Pourquoi ce choix musical, Pascal Quignard?
Parce que c'est, avant Purcell, c'est une œuvre extraordinairement émouvante sur, précisément, la perte des animaux sauvages. C'est le chant de l'adieu à la nature, et comme l'on vit, malheureusement, surtout depuis, le tsunami sur les bords du Pacifique. Une destruction de la nature, je trouve cette œuvre très émouvante.
Alors, la transition est parfaite. On va vous entendre lire, si vous acceptez, Pascal Quignard, le tout début de ce nouveau roman, hein, Les Larmes, qui justement célèbre la liberté, la nature, les chevaux. On vous écoute.
Jadis, les chevaux étaient libres. Ils galopaient sur la terre sans que les hommes les désirent, les encerclent, les regroupent dans les défilés, les prennent au lasso, les piègent, les attellent aux chars de guerre, les harnachent, les scellent, les ferrent, les montent, les sacrifient, les mangent. Parfois, les hommes et les bêtes chantaient ensemble. Les longs gémissements des uns provoquaient les singuliers hennissements des autres. Les oiseaux descendaient du ciel et ils venaient picorer les restes entre les jambes des chevaux qui secouaient leurs magnifiques crinières, entre les cuisses des hommes qui renversaient leur tête en arrière, assis par terre, autour du feu, qui mangeaient avidement, bruyamment, excessivement, qui frappaient soudain leurs mains en cadence. Quand le feu s'était éteint, quand ils avaient fini de chanter, les hommes se relevaient.
Merci Pascal Quignard, ce sont les premières lignes de ce nouveau texte, Les Larmes. Alors évidemment, on reconnaît, on retrouve aussi vos obsessions, on a l'impression, là on a ces chevaux, il pourrait y avoir un cerf, on est aussi dans cette forme, quand on lit la suite du livre, on reconnaît aussi cette forme fragmentée hein, qui vous est chère. Je voudrais savoir, Pascal Quignard, comment elle s'est imposée finalement, cette structure qu'on retrouve dans Les Larmes, c'est-à-dire par fragments, par différents récits, petits récits qui composent un récit plus grand. Vous considériez, je ne sais pas si c'est toujours le cas, La Rochefoucauld, donc vraiment le père du fragment, comme le plus grand écrivain français. Est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce qu'au fond, c'est une forme de tribut à cette littérature-là qui a fait que la patte, le style Quignard, ne peut s'exprimer que par le fragment?
Ah, je n'avais pas pensé. C'est un grand baroque. J'admire toujours François de La Rochefoucauld et ça, mais aussi j'admire aussi pour son dessillement et son ne pas se payer de mots et le. Mais c'est vrai que c'est une des caractéristiques de la littérature française. Des Montaigne, La Rochefoucauld, Pascal, l'admirable Rancé de Chateaubriand. C'est vrai qu'il y a une attirance à trancher, au style tranchant, au style fragmentaire. Alors là, dans les romans, ce que j'aime bien, c'est qu'on dispose les scènes les unes à côté des autres, et puis elles font écho. À force de le relire, ensuite qu'on comprend tout, mais il faut avoir fini le livre pour bien comprendre l'histoire générale que chaque histoire particulière véhiculait.
Fragment, en latin, donc fragmentum vient de fragere, briser, comme si évidemment cela faisait originellement partie d'un tout. C'est quoi ce tout, cette histoire qui serait le tout dont viendraient ces petits fragments qui sont, on l'a compris, qui ne sont pas liés forcément entre eux de façon évidente?
C'était un signe, c'est même l'origine du crédit bancaire, c'était un signe d'amitié. On prenait un vase en Grèce, on le brisait, on donnait à ceux qui avaient fait affaire ensemble les morceaux, et les bolas donc, et quand on les rassemblait, les symbolas, quand on les réunissait, on avait d'une part, la parole était engagée, même après deux ou trois générations, on devait à sa parole le fait d'y répondre. Voilà, ce qui se passe, c'est le fait de constituer après coup ce qui a été rompu.
Et ça donnait donc ce, quand on réunit
c'est la
les
symbolisation,
bolas,
c'est symbolique, c'est ce que les psychanalystes appellent le symbolique, et c'est profondément, comment dire, si vous voulez, pouvoir à force d'image atteindre un point symbolique, c'est peut-être ce que je rêve de faire dans mes romans.
On reconnaît aussi, outre cette forme fragmentée, les thèmes qui vous obsèdent et qui constellent votre œuvre littéraire, le sexe ou plus précisément l'acte sexuel, puisqu'on assiste à la naissance hein, de ces deux jumeaux. La musique est très présente.
Il faut un peu de gratitude quand même à la scène qui nous a faite.
Exactement. La scène originelle, la scène primitive, la fameuse.
Il manquerait plus qu'on l'oublie.
Ça vous tenez finalement à rappeler ces petites obsessions quignardiennes au fil. Il faut pour. Il y a une part de jeu.
Je trouve ça ahurissant. Si vous voulez. Je reste un enfant, un petit enfant. Je trouve que notre origine est quelque chose d'inouï. d'impensable, d'extraordinaire. Et dans ce cas-là, je la révère. Je ne veux pas la masquer. De même, la différence sexuelle est quelque chose que je trouve d'absolument. Ce qui vous explique aussi le fait que être ému comme je le suis par l'origine tellement fortuite, tellement contingente d'une langue, m'émeuve aussi. Elle est aussi contingente que ma propre origine. Ou que la vôtre, Christophe Nodibio, parce que nos naissances sont vraiment des choses très étranges.
Vous parliez du genre, une chose qui m'a beaucoup marqué, vous confessez non pas une impossibilité ou une incapacité, mais en tout cas un refus à vous mettre dans la peau, dites-vous, de personnages féminins n'étant pas une femme. C'est curieux de la part de quelqu'un qui revendique justement l'invention, la fiction, comme vous l'avez fait.
Je ne pense pas qu'une femme, je le crois vraiment, hein, c'est très discutable ce que je dis, c'est personnel. Je ne pense pas du tout qu'une femme puisse me comprendre, je ne pense pas jamais pouvoir comprendre une femme. Je pense même qu'il y a de la misogynie à prétendre pouvoir se glisser dans la tête de l'autre sexe.
Certes, Pascal Quignard, mais vous nous avez dit que ce qui marquait le roman, c'était la fausseté, c'était le mensonge. Donc pourquoi ne pas prendre le risque et de faire ce pari pascalien qui serait voilà, d'essayer de faire un pari de vérité en se mettant dans la peau d'une femme.
Je peux merveilleusement, comment dire, donner, je l'ai fait par exemple dans mon dernier roman, Les Solidarités Mystérieuses, qui est absolument centrée sur une femme. Mais jamais elle ne parle. Je peux décrire ce qu'elle fait, ses gestes, mais je ne peux pas prétendre entrer dans la psyché, si j'ose dire, dans l'âme d'une femme.
Alors je le disais, hein, on retrouve dans ce livre les thèmes quignardiens par excellence, hein, la scène primitive. Je voulais la lire quand même, Pascal Quignard, ou je vous laisse lire peut-être. La naissance de Nithar, allez, je vous laisse lire, c'est beaucoup mieux.
Jadis, le jour où Nithar naquit, le comte Angilbert, qui était le père de l'enfant, lequel était aussi le père abbé de l'abbaye dédiée à Saint-Riquier de la Baie-de-Somme, prit l'enfant alors qu'il sortait tout ruisselant du ventre de Berthe et dit: Au Pierre, qui vous levez pour la première fois, plissant votre peau si fragile, tandis que vous dénudez vos deux gros yeux mouillés dans la lumière, je vous bénis. C'est alors qu'un nouveau cri s'éleva. Il y avait un jumeau dans le ventre de Berthe. On pouvait voir le front jaune qui poussait contre la paroi du ventre et qui apparaissait déjà entre les grandes lèvres violacées de Berthe, juste au-dessous du buisson de poils blonds qui recouvrait sa peau tendue à rompre jusqu'au nombril.
Vous n'en aurez jamais fini alors avec cette scène primitive, hein ?
Jamais, jamais.
C'est ce qui vraiment fonde votre littérature ?
Mais ma curiosité, ma curiosité. J'ai été très étonné lorsque j'avais écrit un gros livre, comment dire, intitulé Le sexe et l'effroi,
sur les
images romaines. Mais j'ai fait ensuite un livre, La nuit sexuelle, qui était tout aussi gros, uniquement parce que j'ai été quand même interloqué qu'au bout d'un siècle de psychanalyse, il n'y avait aucun livre d'images consacré à la scène primitive. Et moi, je trouve que ce livre manquait, et ça m'a fait un plaisir fou à le constituer, et je suis très heureux d'en être l'auteur.
C'est très bien. Qu'est-ce que vous attendez toujours du lecteur, hein ? Si on revient à cette conversation qu'on avait sur la volonté que vous avez de supprimer les liaisons entre les images, d'ailleurs, autant pourquoi parler de scènes ou de chapitres ou de fragments, autant parler d'images ? Puisque ce sont des images, hein, à chaque fois. Qu'est-ce que vous attendez du lecteur ? C'était le titre, hein, d'un de vos livres, Le lecteur. Quel rôle vous lui donnez quand il lit vos textes ? Qu'est-ce qu'il doit faire ?
Ah, je ne lui donne pas de rôle. Je pense, si vous voulez, qu'il est bien plus important. C'est une expérience bien plus profonde que le fait d'écrire. Le lecteur est celui qui, comment dire, vertigineusement s'abandonne à ce qu'il lit. Il en est modifié. Je comprends très bien qu'il y ait des gens qui n'aiment pas la lecture, parce qu'on risque quelque chose en lisant. On peut vraiment même être traumatisé soudain au détour d'une page par quelque chose qu'on ne voulait pas entendre de soi. Mais précisément, cette possibilité d'être ouvert au coup qui peut venir, c'est le plus profond de la littérature.
Vous parlez donc d'un véritable risque pour le lecteur de littérature. C'est-à-dire quelque chose, la littérature ne peut être définie que comme quelque chose de dangereux. C'est pas juste une ruse de Pascal Quignard pour donner de la valeur à cette littérature en disant c'est dangereux et
non,
ça donne toujours envie d'aller vers
le danger.
Ça n'est
pas que dangereux, c'est très approfondissant. Ça permet de passer les millénaires, les siècles. On peut être ému par Ulysse arrivant sur l'île des Phéaciens.
Avec Nausicaa.
Voilà, exactement. Et ça fait pourtant 2000 ans.
Es-tu un homme ou un dieu ?
Oui. Il a peur de sa propre nudité, il se cache et se cache. Bon. On approfondit sa vie par les siècles, mais on s'expose. Il y a dans la lecture quelque chose de désarmé, parce qu'on ne peut pas lire si on est en position volontaire. C'est comme l'audition de la musique est quelque chose qui peut faire monter les larmes aux yeux. Il en va de même pour les vrais livres.
Les larmes racontent donc l'histoire de l'apparition des premiers mots prononcés en français à travers le destin donc de deux petits-fils de Charlemagne, que vous écrivez vous Charles Lemagne, hein, pour rendre aussi l'étymologie.
Oui.
Exactement, le grand. Donc Arnide et Nithard. On est finalement assez étonné que ce roman n'ait pas été écrit plus tôt, hein, finalement, oui. Par vous, parce que il semble être totalement à l'origine de ce qui fonde votre littérature, hein, toujours le langage et l'apparition du français.
Ah non, je pensais que vous disiez que vous alliez dire que c'était étonnant qu'il n'ait pas été écrit par quelqu'un d'autre.
Ah oui, non, je disais par vous.
Moi aussi, non, mais je suis étonné qu'il n'ait pas été écrit. Si vous voulez, c'est comme s'il avait manqué. Vous vous souvenez des contes et légendes qu'on disait dans la librairie Hachette ?
L'importance des couvertures aussi, parce que je crois que le premier livre latin que vous avez lu, c'était L'âne d'or d'Apulée. C'est une couverture, c'est une image qui vous a apparu.
Bien sûr, la couverture. Et Hachette, à l'époque, c'était quand même des livres roses, un peu plucheux. Et c'était très des merveilleux livres. Non, ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire est tellement ahurissante. Moi, je la connaissais depuis toujours, puisque mon grand-père était grammairien et qu'il a écrit des volumes et des volumes sur l'histoire de la langue française, mais c'est curieux qu'il n'y ait pas eu des contes et légendes de l'origine de notre langue. Et peut-être que, à mon petit niveau, j'ai eu le plaisir de pouvoir le faire. Le fait, on sait tout. On sait, comment dire, les armées qui étaient en présence à Strasbourg. On sait le fait qu'il faisait très froid. Nixt multa, dit Nithard, c'est-à-dire la neige était nombreuse, il neigeait. C'est le vendredi 14 février 842. Nithard note en latin, en français, en vieil allemand. Les premiers mots français, il les note le soir même, on sait tout. Et je trouve ça très émouvant, et c'est pour ça qu'il fallait les mettre en situation de le... Moi, ça m'émeut en tout cas.
Mais pourquoi précisément, alors quelqu'un d'autre aurait pu le faire, c'est vrai, mais vous aussi, vous auriez pu le faire avant. Pourquoi finalement avoir attendu tant de temps avant de revenir par la fiction, par le roman, par l'histoire aussi, à ce moment fondateur où apparaît finalement votre matière première d'écrivain, le mot français?
Eh bien, alors, je vous réponds de la même façon, les choses contingentes étant celles que les actes de naissance étant, il s'est trouvé que Anne Potier, qui dirige l'abbaye royale de Saint-Riquier, ayant redécouvert le corps de Nithard, me demande de l'enterrer. Je demande à un ami, comment dire, d'ailleurs un danseur très... Luc Péton devient le corps de Nithard roulant dans les vagues, et j'arrive sur ce lieu, l'abbaye de Saint-Riquier, là où mon propre grand-père est enterré. Il y a eu un court-circuit, et ça s'est fait avec une spontanéité, j'ai écrit. Il faut toujours un court-circuit au départ.
Comment ça se traduit, ce court-circuit? Alors, est-ce que c'est en termes d'image? Est-ce que c'est en une déflagration? Comment vous l'expliqueriez à nos...
Ah, ça a été la mer, d'abord. Ça a été la mer. Ça a été le fait de descendre aussi sous l'abbaye de Saint-Riquier et de voir que le premier roi Riquier était celui qui était à la source de la thaumaturgie. Ça a été le fait de pouvoir faire une performance, vu qu'il s'agissait d'enterrer. En fait, on ne l'a pas enterré, finalement.
C'était une performance, en fait, hein, c'est
oui,
ça.
Voilà,
c'est bien
voilà,
important
voilà.
D'expliquer.
Oui,
ouais,
oui, ouais. Oui. J'aime énormément faire des performances, c'est-à-dire des choses à l'état unique. Mais ce n'était pas du tout l'idée de faire un livre, pas une seconde. Et après l'avoir faite, dans l'obscurité, où je faisais revenir l'âme de Nithard sous la forme d'une buse, qui s'appelait d'ailleurs Phénix, en vérité, j'aimais énormément le contact des oiseaux sur mes mains ou sur mes épaules, eh bien je me suis mis à écrire d'abord les scènes de falaise, les scènes de passeurs de rivière aussi, un peu comme Caron aux enfers.
On retrouve la barque silencieuse.
La barque silencieuse. Mmh. Et les scènes comme ça se sont regroupées comme autant de rêves. Voilà comment ça se fait.
C'est-à-dire que c'est d'abord une performance, hein, on vous appelle pour une performance, enterrer le corps de Nithard.
Oui.
Et au fond, aujourd'hui, vous le déterrez ou vous le réincarnez finalement dans ce texte qu'est les larmes.
Je n'avais pas pensé, mais vous avez parfaitement raison. Vous savez, souvent les morts reviennent aussi dans les rêves. il est revenu dans les rêves. J'ai eu besoin de cette renaissance-là.
J'aimerais vous entendre lire, encore une fois, Pascal Quignard, un passage de ses larmes. C'est précisément le moment où le premier texte français apparaît, les premiers mots français donc prononcés dans la neige, ce jour de 14 février, la date exacte.
842.
842, retenez bien la date.
Voici les premiers mots français prononcés dans le froid et la neige, sur leurs lèvres glacées, le 14 février. Pro Deo Amour et Pro Christian Poblo, et nostro commun salvament, si Lodovic sagrament que son fradré Carlo jura, ni je, ni nul, qui en puisse retournar, en nul aide, comme Lodovic ne serait. Ni je, ni nul. Double négation. En nul aide ne serait contre cet. C'est un serment de malédiction. C'est ainsi que le premier texte français se termine par une sublime double négation qui est un terrible imprécation d'ostracisme en quatre parjures. En nul aide ne serait ni je ni nul.
Est-ce que vous revendiquiez, Pascal Quignard, on parlait tout à l'heure de la tâche qui incombe au lecteur quand il vous lit, une certaine part d'obscurité. Là, le passage que vous venez de lire, il y a du latin qui s'entrelace hein, au français. La neige tombant en abondance sur la terre gelée, subsequente gelu nix multa quaecidit. Vous avez conscience de ça? Vous revendiquez finalement hein, une obscurité, une difficulté? Ça se mérite, Quignard?
Non, c'est pas pour que ça se mérite. Mais c'est pour qu'on le contacte avec le vrai, avec l'authentique. Je me souviens de lorsque j'avais fait Le sexe et l'effroi sur le monde romain, sur la mélancolie de la sexualité romaine. On m'avait demandé aux éditions Gallimard de supprimer les mots latins. Mais ça n'avait plus aucun sens. S'il n'y avait plus le mot fascinus pour dire le sexe masculin, on perdait tout sens.
Fascinus qui a donné le mot fasciné et on revoit. Et là, on est totalement dans le sexe et l'effroi.
Et voilà, exactement. Et on est dans l'hébétude ou l'engourdissement que la présence du sexe fait, impose à l'âme qui le regarde. Et là, c'est la même chose. Là, le mot sagrement, ça n'est pas sacramentum, mais ça n'est pas non plus encore serment. C'est sagrement au milieu. Il faut laisser quand même le mot un petit peu être. Lodovic, c'est pas encore Louis, mais c'est plus non plus Ludovicus. Non, j'aime cette hésitation. C'est pas pour l'obscurité que ça entraîne. À mon avis, ça n'en entraîne pas. C'est une habitude, qui est née de la Révolution française, que de nier les patois, que de nier les accents. Mais moi, je ne suis pas républicain à ce point, et je crois qu'il faut laisser une diversité beaucoup plus grande et laisser les patois, les accents et les dialectes fonctionner.
En nul aide ne serait, donc le premier texte français se termine par une double négation. On parlait tout à l'heure de psychanalyse, c'est quand même inquiétant pour la psyché française, non ?
Faut pas généraliser jusqu'à la nation. Mais...
Je vous dis ça parce qu'évidemment, votre texte arrive aussi à point, et je voudrais qu'on en parle maintenant, dans une époque, un moment où justement l'identité, la question de la langue, la question de la nation, la question des origines est de plus en plus au centre de nos débats, en tout cas politiques. On va en parler un petit peu et on va parler du latin aussi et de sa disparition progressive. Heureusement pas dans votre littérature, Pascal Quignard, mais on écoute d'abord votre second choix musical. Vous avez choisi Schubert, Auf dem Wasser zu singen, interprété par Elisabeth Schwarzkopf. Et au piano, c'est Gérald Moore.
Seelen auf ihn für der Kahn.
On écoute Schubert, Auf dem Wasser zu singen, interprété par Elisabeth Schwarzkopf. Et au piano, c'est Gérald Moore. C'est le deuxième choix musical de Pascal Quignard, avec qui nous passons cette heure. Il publie Les Larmes chez Grasset. Pourquoi ce choix musical?
J'ai besoin de l'eau. C'est un besoin absolu de ma vie. Et c'est une façon d'être en contact sans cesse avec la ville. Je suis né à Verneuil-sur-Avre. Ensuite, j'ai vécu au Havre, où se jette la Seine, comme tout le monde sait. Quand je vivais à Paris, je vivais sur le bord de la Seine. Maintenant que je vis à Sens, au bord de Lyon, je suis toujours en contact direct, comme ça, avec le port du Havre.
Les Larmes sont un roman, Pascal Quignard, et dans ce roman, vous vous attelez à surprendre, au fond, à traquer, à identifier, à mettre en fiction, dans l'histoire de France, les premiers balbutiements, les premières brumes, c'est le mot que vous utilisez, du français, ainsi que la première âme française, dont vous faites un oiseau. Vous faites, au fond, la généalogie de cette langue française qui vous sert de matière première. Pourquoi écrire aujourd'hui cette histoire fictive, mais pas seulement, de l'origine du français? Je pense à ça parce que il se trouve qu'il sort, ce roman, à un moment où l'histoire de l'origine, de l'identité française revient au premier plan, et en même temps, c'est une époque où on tend à oublier les langues qui ont donné le français, notamment le latin, qui est presque taxé de persona non grata dans l'école de la République aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez perçu ces choses-là dans l'époque, puisque, au fond, ce livre aurait pu, on en a parlé tout à l'heure, être écrit bien avant, par vous ou par un autre?
Oui, je n'ai pas pensé du tout que, comment dire, d'anciens présidents de la République parleraient d'identité française ou de la Gaule ou des... Non, et commettraient d'ailleurs d'immenses erreurs historiques ce faisant. Je ne pouvais pas le deviner, je ne peux pas penser à ça. Mais forcément, vous avez raison, forcément c'est quelque chose qui est né en moi, comme il est comme au contact précisément de ceux avec qui je vis. Il est possible que j'ai eu le désir, avant de mourir, de donner quelque chose à la langue qui m'avait fait... J'étais très heureux d'écrire ce livre. Je ne sais pas très bien vous exprimer. Ça n'est pas du tout à l'égard de la nation. Ça n'est pas du tout à l'égard de l'identité. Mais je crois que c'est à l'égard du... Moi qui suis très musicien, à l'égard du territoire sonore. Voilà. Là, je suis très attaché. Il y a un territoire sonore que j'aime infiniment et qui est celui de ma langue.
Et votre rapport au...
Je suis un monolingue, à vrai dire. Hein. Donc ça doit être très important pour moi d'avoir ce rapport à la langue.
Vous lisez le latin quand même.
Mais là c'est autre chose, je lis le latin, le grec et un peu de sanskrit. Ça veut dire, ce ne sont que les sédiments. La langue française n'existe pas par elle-même, elle n'est faite que de cette sédimentation. On ne peut absolument pas trancher entre le français et le latin.
Et pourtant on est en train de le trancher. On voit que vous poussez le vice, Pascal Quignard, jusqu'à entrelacer les mots français que vous utilisez, hein, avec des mots latins, et presque parfois à donner les mots latins après les mots français. Hein, par exemple, je vois ici, le sacramentum, serment, alors parfois c'est à l'envers, les deux rois quand ils jurent, juraverunt, vous parlez de lingua romana, de lingua teudesca, de lingua franca. Pourquoi à ce point mettre le latin au centre de cette histoire? Vous dites, vous avez une très belle expression, hein, le français sort du latin comme un enfant du sexe de sa mère, donc on revient à la scène primitive, comme un oiseau sort du cou de la sainte. Et là, on est au contraire dans la mythologie chrétienne.
C'est le premier texte, le cantique de Sainte Eulalie.
Vie de Sainte Eulalie, oui.
Oui, où en effet, l'âme sort sous la forme d'une colombe. Et c'est le premier vers français que je trouve d'ailleurs très beau. Une figure de colombe volat al ciel.
Mais quel rôle vous lui donnez à cette langue latine et à cette étymologie que vous faites perpétuellement dans ce texte, comme s'il fallait préciser sans cesse le sens des mots?
Je ne sais pas si c'est pour le préciser. Il y a en moi une vraie fascination pour l'étymologie, pas tellement pour vérifier le sens des mots, mais c'est, si vous voulez, le vertige de celui qui fore un trou et qui, comment dire, irait jusqu'au contact de la sauvagerie initiale, de la sauvagerie source. Et ça, c'est un plaisir. J'aimerais pour chacun des mots que j'emploie en connaître l'origine.
C'est étonnant parce que vous dites ça, mais je me souviens du Dernier Royaume où vous écriviez, Pascal Quignard, « Je refuse de ployer sous l'empire de la langue nationale. Je l'émiette dans ses différentes lettres, dans ses suffixes, dans ses racines. Je l'étymologise. » Au fond, dans l'étymologie, il y a cette idée de descendre justement à la racine, jusqu'à la sauvagerie. Et c'est quoi? C'est sauvagerie contre empire? C'est Camus disait que sa patrie était la langue française. C'est pas votre cas?
Non, j'ai pas besoin de patrie. En revanche, j'ai besoin de cette onde musicale qu'est de ce territoire sonore. Comme les oiseaux ont un territoire sonore, je serais dans ce cas-là moins un oiseau. Bien plus, si vous voulez, l'idée d'enracinement, comme les plantes, est quelque chose qui ne me... Ce que je trouve merveilleux, c'est de pouvoir voyager avec un livre, par exemple, ou avec sa langue, et s'affranchir du temps pour rejoindre quelque chose qui est de l'ordre de la nature. C'est ça, c'est la source qui m'intéresse plus qu'autre chose. Source de la langue, mais source aussi, comment dire, des animaux que nous sommes.
Comment ça se passe dans le travail de l'écrivain?
Ah, vous savez, s'il y a une chose qui est agréable, je ne dis pas ça pour ne pas répondre à votre question, c'est de ne pas savoir ce qu'on fait. Et c'est de s'oublier dans ce qu'on fait. Donc je ne peux pas faire semblant d'être... Je ne suis pas un écrivain qui cherche la conscience de ce que je fais. Là, je ne suis pas comme le Paul Valéry que vous citiez au tout début. L'idée d'être même inconscient de ce que je fais me fait extrêmement plaisir. Pouvoir avoir commencé d'écrire à telle heure et que 4 heures se soient passées sans que je m'en sois rendu compte, c'est le plaisir de ma vie.
C'est quoi? C'est s'abolir soi-même. Mais dans ce laps du temps qui passe si vite, il se passe plein de choses pourtant.
C'est s'engloutir dans quelque chose de passionnant, exactement comme le musicien qui compose ou qui joue, il ne voit pas le temps passer. Ou comme le joueur qui joue aux cartes ou qui mise très fort et qui ne voit absolument pas le temps se dérouler.
Il y a de très très belles pages sur la nature, Pascal Quignard. Je pense à ce petit fragment sur les lichens crustacés. Les lichens crustacés aiment les roches écrasées par le feu du soleil. Ce ne sont pas exactement des mousses, ce ne sont pas non plus des poussières. Entre mousse et poussière, ils recouvrent les crânes desséchés des carcasses des animaux morts ou des guerriers morts abandonnés dans les déserts. On est à la fois dans l'observation directe de la nature et puis dans la légende, dans le temps long, dans le petit instant et le temps long. Le temps immémorial. Dans votre poétique d'écrivain, Pascal Quignard, il y a la volonté de rassembler ça, cette éternité de l'histoire, et puis ces petits moments où les carapaces crissent, où les crustacés rampent, où les lichens, on les entend presque pousser, on entend aussi les cerfs qui sont là, les chevaux, cette sensualité, et puis ce temps long de l'histoire.
Ah, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir qu'en disant ce que vous dites. Je ne sais pas si c'est une volonté en moi, mais c'est ce que vous dites et ce que j'espère, oui.
Est-ce que vous acceptez d'être qualifié de styliste au risque d'être taxé parfois de préciosité ou de trop grande méticulosité, d'hermétisme?
Je veux bien hermétisme, mais je ne veux pas styliste, non.
Non. Pourquoi? Pourquoi ce mot-là? Le style, c'est un joli mot. Étymologiquement, c'est très fort.
Ah, le mot stylus, c'est parfait. Ça nous va très très bien. C'est les pieux, c'est le bout de fer qui permet d'inciser la tablette de buis. Styliste, dans ce sens-là, je veux bien. Mais celui, comment dire, qui respecterait une règle et qui ferait, comment dire, de sa langue une loi, non. Je ne suis pas du tout styliste dans ce sens-là. J'aime beaucoup plus de liberté que les règles de grammaire que je connais fort bien, mais qui ne m'intéressent pas du tout.
Je parlais tout à l'heure évidemment d'obscurité, même parfois d'hermétisme. Est-ce qu'il y a chez vous une volonté aussi, un peu toujours dans cet effort que vous demandez, ce bel effort que vous demandez au lecteur, de crypter finalement votre propre prose?
Non, je pense que c'est plus la déchirer que crypter. Enfin, c'est compliqué, ce mot crypté est compliqué parce que si vous voulez, dans les saisons, l'hiver par exemple crypte le printemps. Alors si c'est ça, crypter, si c'est comment dire, enfouir pour pouvoir ensuite ressurgir, je ne sais pas comment vous répondre.
Je pense à des phrases comme ça, on marche vers les oiseaux, on les a égarés dans la musique, itour, on marche, flétour, on pleure. Où, dans cette forêt d'avant le monde humain, dont il ne reste que des vestiges sublimes, ça et là, et qui sont les plus belles des choses, des versants des montagnes, des bords de la mer, des sables qui se meuvent et qui chantent les mélodies des roseaux et des dunes. C'est très très beau, hein. On continue comme ça, mais on a l'impression que c'est totalement déconnecté de l'ensemble. C'est vrai qu'on refait le chemin après, mais comme s'il y avait un sens caché, comme s'il y avait un jeu de l'auteur pour dessouder, décoller, retisser autrement, pour perdre un peu son lecteur.
Oui, non, c'est pas du tout pour le perdre, c'est pour replonger tout dans la nature. Ça, profondément, de plus en plus, je trouve que, si j'ose dire, plus que l'humanité, je trouve que la nature est d'une beauté vertigineuse. De plus en plus vertigineuse.
On a l'impression, Pascal Quignard, que vous écrivez non seulement par fragments, mais aussi sur des fragments, sur des stèles, sur des images anciennes, sur des tableaux. Il y a par exemple des tableaux parfois caravagesques, hein, dans votre prose. Est-ce que vous êtes un être du passé, Pascal Quignard? J'ai l'impression que parfois vous songez à faire vos propres nuits attiques, hein, pour parler de Olugel, hein, donc dans cette qui d'ailleurs avait comme vous cette même conception du fragment, d'écrire en fragments et d'essayer de brosser un tableau des connaissances actuelles sans que les liaisons justement se fassent finalement. On a l'impression que
Et la même passion pour les nuits.
Exactement.
J'aime énormément aussi l'obscurité et les caravagesques, comme vous dites.
Je vous cite, hein, pour expliquer ce que j'essayais d'exprimer. C'était dans Le nom sur le bout de la langue, hein, que vous aviez publié en 1993. Il est curieux de noter que des livres que j'ai écrits ont connu le succès en déterrant de vieux fantômes morts inconnus qui portaient en eux plus d'avenir que des vivants. Et au fond, il semble que le lecteur vous en sache gré.
C'est merveilleux. Ce qui m'est arrivé est merveilleux parce que j'aurais très très bien pu rencontrer l'insuccès le plus complet, et au contraire, je suis entouré d'un certain nombre de lecteurs qui acceptent ce que je fais. Je les remercie. Il y a une gratitude en moi à l'égard de ça. Je n'aurais jamais fait autre chose que ce que je fais, et ça aurait très bien pu, à mon avis, ne jamais être publié. C'est là où j'éprouve une chance, j'espère que d'autres auront une chance comme celle que j'aurais connue dans ma vie.
Mais justement, il vous remercie finalement d'avoir déterré ou évoqué des fantômes. On a l'impression qu'au fond, cette compagnie des livres, cette compagnie des morts, cette compagnie des auteurs classiques, hein, que vous avez, c'est ça qui finalement dont ont besoin les contemporains qui vous lisent et qui vous aiment pour ça. Mais qu'est-ce que vous trouvez, vous, dans cette compagnie des morts, des vieux auteurs, Olugel dont on a parlé, ou ici les chroniques de Nittard, de Louis Le Pieux? Qu'est-ce qu'il vous apporte, ce vieux monde?
Ce sont souvent des figures d'oubliés. Et comment dire, l'histoire univoque est souvent fort mal écrite. Il y a en moi quelque chose qui a un plaisir fou à faire revenir ce qui a été, comment dire, victime ou massacré ou oublié. Je pense que là, je suis vraiment quelqu'un, un écrivain des ruines. Je suis né dans les ruines du Havre, élevé par quelqu'un qui revenait du camp de Dachau. Il y a quelque chose en moi qui va à tout prix faire survivre quelque chose de perdu. Ça, c'est sûr.
Je suis en train de lire le nouveau livre de Peter Sloterdijk, Après nous, le déluge, qui souligne combien justement la modernité, hein, dans l'histoire s'est écrite par une rupture avec la filiation. Est-ce que vous, Pascal Quignard, vous vous sentez plus un classique qu'un moderne, à moins que ces catégories, au fond, n'aient aucun sens pour vous? Vous dites souvent que vous êtes héritier de ce que vous avez pu lire et écouter. Aujourd'hui, se définir comme un héritier, c'est toujours suspect.
Ça dépend comment on voit l'héritage, mais se définir comme soi-même, se définir comme un héros qui naîtrait soi-même, nous ne naissons pas nous-mêmes. Nous avons été faits par d'autres, et la scène sexuelle que vous me reprochiez...
Ah non.
Non, je plaisante, mais elle est bien la preuve que c'est pas nous-mêmes qui nous faisons, qui nous engendrons nous-mêmes. On est un poids de sédimentation inouïe, il y a une gratitude à avoir à l'égard de tout ce qui nous a fait, même pour pouvoir s'en émanciper. C'est en ça que je ne vois pas comment on peut opposer le moderne à l'ancien. Pas une seconde.
Ce sont au fond des catégories qu'il faudrait totalement repenser, en tout cas en littérature. Le terme
certainement.
Moderne, finalement, Hernani...
Moderne avait un sens que de ce qui est à la mode, bon... Mais et un beau foulard rouge ou un...
Oui, le gilet rouge de Théophile Gautier.
Mais j'ai rien contre les gilets rouges et contre les modes. Mais ça n'est pas du tout une notion puissante.
Mais qu'est-ce qu'elle vous apporte, justement, littérairement, comme écrivain? Je vous posais la question tout à l'heure, cette fréquentation des ruines, cette fréquentation des auteurs du passé.
C'est surtout l'idée qu'il n'y a pas du tout à chercher à être original. il y a à chercher une espèce d'épaisseur, de profondeur, de vie et une soudure avec la nature qui précède.
On parlait de larmes, hein, des larmes, c'est votre nouveau roman. Les larmes sont versées, je voudrais qu'on termine là-dessus, elles sont versées à plusieurs reprises par des personnages différents. Il y a cette histoire de la déesse de la forêt qui pleure et dont les larmes rejoignent le lac. Il y a une formule aussi que vous prenez à Voltaire, assez énigmatique d'ailleurs, les atomes qui tombent du ciel sont les larmes des choses. Quel sens donner à ce titre, Pascal Quignard ?
C'est la naissance de l'eau. Ce sont les larmes mystérieuses qui sont aussi bien, comment dire, dans le plaisir que qu'elles le sont aussi dans le chagrin. Cette puissance que nous avons, cette quantité même d'eau mystérieuse que nos corps possèdent, qui soudain s'effondre sur nos joues ou au fond de notre corps, me rapproche de la rive et de la rivière que je veux à tout prix suivre en vivant.
En vivant. Et vous écrivez dans les larmes, Pascal Quignard, il est possible, en effet, qu'on n'apprenne pas énormément de choses en vivant. Est-ce vous qui parlez ? Et en regard de cette citation, évidemment, on se demande quel rôle vous donnez à la littérature, puisque en vivant, il est possible qu'on n'apprenne pas énormément de choses.
Oui, mais on les approfondit. On sent plus profondément. S'il y a un sens à tous les arts, c'est de sentir plus profondément les choses.
Donc la littérature nous aide. Ça, c'est ça son rôle, c'est de nous faire approfondir les...
Ah, moi, en tout cas, chaque fois que j'ouvre un livre, ça, je sens plus profondément quelque chose qui m'est ouvert par ce que je lis.
Dans Les Désarçonnés, vous suiviez à la trace de nombreux écrivains qui, comme Montaigne, étaient tombés de cheval. Vous expliquiez qu'ils avaient traversé une sorte d'extase mortelle et puis il y avait une renaissance, justement, en écrivant. Est-ce qu'écrire, c'est d'abord tomber, que ce soit d'un cheval, d'une femme, d'une guerre, d'un pouvoir ou d'un amour, tomber et survivre ?
Je ne sais pas si ça permet de survivre, mais bien sûr, tomber et... Si, peut-être, et peut-être détraumatiser un peu.
Détraumatiser...
Ce qui a été vécu.
La fin de votre livre, Pascal Quignard, se termine sur une phrase qui elle-même se termine par le mot « aube ». Quand je rentrais dans la maison, c'était presque l'aube. Ça m'a fait penser à Tous les matins du monde, et la phrase complète d'ailleurs était dans les petits traités, hein, cette phrase sur les Tous les matins du monde. Et cette phrase dit « Tous les matins du monde sont sans retour ». Qu'est-ce que vous vouliez dire par cette phrase ? Et je crois que c'était pas d'ailleurs la phrase complète.
« Tous les matins du monde sont sans retour et les amis ». J'ai écrit cette phrase-là après la mort de Louis Cordès, qui était mon meilleur ami. C'est un... Ça m'émeut d'en parler, je ne peux pas en dire plus.
Et tous les matins du monde sont sans retour. Comment expliquer ça ? C'est une forme de perpétuel recommencement ? C'est lié à la nature dont vous avez si bien parlé aujourd'hui ?
Moi, je dirais presque comme un japonais oserait le dire, que tous les matins sont de plus en plus profonds, purs. Il y a une belle chose dans le vieillissement, qui est au contact de la multiplication des saisons, l'émerveillement augmente.
C'est aussi le matin que vous écrivez, Pascal Quignard, dès l'aube.
Je rate pas l'aube.
Ouais. Et pourquoi ce moment ? Qu'est-ce qu'il a de si cosmique, magique ou...
La lumière qui naît est peut-être donne une impression de fraîcheur et de pureté et de sonorité. Même les oiseaux, comment dire, sont atteints par cette émotion-là et clament comme ils ne le font pas le soir.
Vous avez un nom, Pascal Quignard, qui rappelle le normand Coignard, c'est celui qui cogne. Est-ce qu'on écrit selon son nom ?
Je pense qu'on cherche dans les livres qu'on écrit à s'inventer un autre nom, mais il y est forcément enfoui ou crypté, mais on ne le connaît pas.
Merci Pascal Quignard.
Merci.
On se quitte avec votre dernier choix musical. Vous avez choisi Beethoven, Irish and Scottish Songs on the Massacre of Glencoe, le massacre de Glencoe, interprété par la formation de Jérôme Antaille. Pourquoi ce choix musical, Pascal Quignard ?
Oh ben là, vous allez entendre la bataille de Fontenoy, la naissance du français. C'est Haydn avait donné à Beethoven la possibilité, pour un ducat, de pouvoir faire des accompagnements pour des chansons irlandaises et écossaises. C'est comme ça que vivaient Haydn et Beethoven.
Merci Pascal Quignard. Je rappelle le titre de votre dernier livre, donc un roman, Les Larmes, paru chez Grasset. Au revoir Pascal Quignard.
Au revoir.
C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Nous sommes avec Bertrand Lamure de la librairie des Marais à Villefranche-sur-Saône, 132 rue de la République. Bonjour Bertrand Lamure.
Bonjour Christophe.
Alors vous avez choisi de nous parler d'un livre qui a plus de 50 millions de lecteurs, hein, Watership Down, par Richard Adams, qui a aujourd'hui 96 ans, auteur des éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. C'est paru en novembre 1972, c'est traduit de l'anglais par Pierre Clincard, et c'est une sorte d'épopée chez les lapins qui veulent échapper à la destruction de leur garenne. Et c'est un succès mondial.
Tout à fait. C'est un livre que, effectivement, je ne connaissais pas, malgré les 50 millions de ventes à travers le monde depuis 1972. Et c'est un peu grâce à l'éditeur, M. Toussaint L'Ouverture, qui a cette réputation un peu dénichée des chefs-d'œuvre étrangers oubliés. Et quand il nous l'avait présenté en juin, il était très très enthousiaste, donc j'ai été évidemment très intrigué, et alors je suis parti dans ce livre et c'est une merveille. C'est une merveille parce que je trouve qu'il y a tout dedans. Évidemment, c'est une histoire de lapin, hein, c'est une histoire de deux frères, hein, Fiver et Hazel, qui sont dans leur garenne, plutôt tranquille, et qui, ce Fiver, qui est un petit lapin chétif, etc., a quand même des dons de voyance, et il sent qu'il va y arriver quelque chose de dramatique dans sa garenne. Donc il décide de partir avec un petit groupe, et ils vont aller d'aventure en aventure. Et c'est là que c'est assez génial, c'est parce que c'est à la fois une ode à la nature, c'est à la fois des sentiments, allez, on pourrait dire humains, d'amour, d'amitié, de rivalité, des notions politiques. Et on suit les aventures de ce petit groupe et entre autres de ses deux frères. Et c'est passionnant, on ne le lâche pas jusqu'au bout. Il y a vraiment ici, je ne saurais pas le qualifier, est-ce que c'est... simplement un roman d'aventure, simplement un roman sur la nature. Je trouve que ça va bien au-delà.
Et malgré les lapins, un lecteur adulte peut tout à fait aimer ce livre.
Il va être conseillé à un enfant de 12 ans ou un adolescent de 12 ans comme à une personne de 96 ans comme Richard Adams. Et il y a vraiment quelque chose de magique dans cette lecture. Et puis il y a même un langage, le lapine. Hein, par exemple, quand il mange à l'air libre, il farfale. Farfaler, c'est magnifique.
C'est très beau.
Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'après, on ne regardera plus jamais un lapin de la même manière.
Merci beaucoup Bertrand Lamure de la librairie des Marais à Villefranche-sur-Saône, 132 rue de la République. Donc j'invite les auditeurs à s'y rendre, hein, et découvrir votre belle librairie. Vous nous avez conseillé Watership Down par Richard Adams. C'est traduit de l'anglais par Pierre Clincard et c'est publié aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. À bientôt Bertrand Lamure.
À bientôt, merci.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel, avec la participation de Clémence Moulard. À la technique, c'était Stéphane Démon. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr, 7 heures de littérature.